France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Cette semaine, on vous a concocté une série spéciale dinosaures. On ouvre le bal avec une espèce emblématique qui a fait trembler la paléontologie, l'Archéoptéryx, le premier à avoir offert ses plumes à la science. Pourquoi a-t-il été si révolutionnaire ? En 1861, on est tombé sur un os, ou plus exactement sur une plume. Pour la première fois, on découvre un dinosaure emplumé. À l'époque, personne ne pouvait l'imaginer. Un squelette de la taille d'une corneille, pas de bec, des dents, des plumes sur les pattes, une queue, des ailes bizarres avec des griffes au bout. Ce drôle d'oiseau, qui n'en est pas un, a vécu à la fin du Jurassique il y a 150 à 148 millions d'années. Aujourd'hui, seuls 14 spécimens ont été identifiés. Alors comment ces fossiles ont-ils profondément changé la paléontologie ? L'Archéoptéryx, le poids-plume des dinosaures ? Vincent Fernandez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléontologue au Synchrotron de Grenoble. Nous sommes en ligne avec Karine Payère. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléontologue attachée honoraire au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et nous sommes également en ligne avec Vincent Renolo. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes vous aussi également paléontologue attaché honoraire au Centre de Recherche en Paléontologie de Paris du MNHN. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Blue Sky @ScienceCQFD pour vous. On publie de nombreuses ressources complémentaires inlassablement chaque jour. Alors qu'est-ce qui rend Archéoptéryx si exceptionnel ? Pourquoi ne peut-on pas dire qu'il est le chaînon manquant entre les dinosaures et les oiseaux, et comment étudier ce petit animal ? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais on commence tout de suite avec notre archète du jour.
Tenez-vous bien, on va se demander comment l'Archéoptéryx a appris à voler. Posons d'abord le problème. C'est quoi un Archéoptéryx ? C'est le grand-père de tous les oiseaux. Un dinosaure qui a pris des plumes et qui s'est mis à voler. On en sait quoi ? D'abord, en 1861, on a retrouvé une plume dans un gisement qui datait de 200 millions d'années. Et les paléontologues se demandaient ce qu'elle pouvait bien faire là. Ensuite, on a trouvé 5 squelettes, pas un de plus, d'Archéoptéryx. C'est un saurien, un lézard préhistorique, avec des plumes, des ailes au lieu de pattes de devant, donc qui allaient sur deux pattes, et aussi des dents dans le bec. Et là-dessus, sur le fait que tous nos oiseaux en descendent, tout le monde est d'accord. Mais comment a-t-il appris à voler, ce lézard ? C'est là qu'on se chamaille. La thèse habituelle veut qu'au cours de l'évolution, enfin, tout ça s'est passé entre il y a 200 millions d'années et il y a 63 millions d'années. Donc on a du temps devant soi. Au cours de l'évolution, donc, ce brave animal serait d'abord devenu bipède, au lieu de quadrupède, comme tout le monde alors. Ça lui permettait de courir plus vite. Ensuite, ce bipède s'est mis à grimper aux arbres pour y trouver de quoi manger, puis pour s'y mettre à l'abri. Après quoi, il s'est mis à sauter d'arbre en arbre, puis, et là les plumes sont apparues, il a appris à se jeter dans le vide, à sauter en parachute si vous voulez. Et après, bon, les plumes l'ont bien aidé, il a appris le vol plané et enfin le vol battu. Tout ça en des millions d'années, mais au bout, il y a eu un oiseau.
Un extrait de l'émission Histoire d'animaux sur France Inter en 1985. Vincent Renolo, faut d'entrée dire tout de suite, non, Archéoptéryx n'est pas le grand-père de tous les oiseaux.
Non, alors effectivement, en écoutant l'archive, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'en 40 ans, on a quand même pas mal progressé en termes de connaissances scientifiques. Et effectivement, aujourd'hui, le consensus, c'est que Archéoptéryx n'était pas l'ancêtre des oiseaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais plutôt le cousin de l'ancêtre des oiseaux. On doit parler en termes cladistiques, c'est-à-dire en termes de généalogie, si on veut, du vivant.
En tout cas, ce qu'on entendait également dans cette archive, Vincent Fernandez, c'est que ce brave animal suscite très rapidement des controverses.
Oui, notamment parce qu'à l'époque, on n'a pas du tout l'idée d'associer les dinosaures et les oiseaux. Donc on a un groupe qu'on appelle les terribles lézards, et on n'a pas du tout envie de se dire que leurs descendants actuels sont les oiseaux, non.
que les T-Rex puissent engendrer des poules, c'est
voilà,
ça.
Voilà, exactement.
Votre écoute de cette archive, vous aussi, Karine Payer.
Pardon ?
Votre écoute, vous aussi, de cette archive de 1985. J'ai l'impression que Karine Payeur, vous nous entendez, vous ne nous recevez pas, mais alors on va continuer notre entretien et je vais laisser notre régie essayer de vous récupérer. Je me retourne à nouveau vers vous, Vincent Renoulot, parce que cette archive aussi, ce qui m'intéressait, c'était l'histoire également de la découverte de ce spécimen. C'est une histoire qui commence donc vers 1860. Une plume isolée est découverte dans une carrière de calcaire en Bavière.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle les gisements de la région de Solnhofen en Bavière, en Allemagne. Donc, ce sont des gisements qui sont connus depuis le milieu du 19e siècle et qui servent à faire du calcaire lithographique. Donc, c'est-à-dire des dalles extrêmement plates avec un grain extrêmement fin qui servait à faire de la lithographie. Et effectivement, on les connaît fossilifères depuis le début. Et en 1861, il y a eu la découverte de cette fameuse plume. Et très rapidement, dans la même année ou l'année suivante, la découverte du spécimen qu'on appelle le spécimen de Londres. On m'appelle comme ça parce qu'aujourd'hui, il est au Muséum de Londres. Et donc, très rapidement, effectivement, on a fait le lien entre, comme le disait Vincent Fernandez juste avant, entre les dinosaures et les oiseaux. Enfin, pas tout le monde, hein, ça a été un peu controversé, mais aujourd'hui, il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Il faut savoir que quand Archéoptéryx est découvert, c'est simplement 2 ans après la publication de l'origine des espèces de Darwin. Donc, c'est quelque chose de très frais, on va dire, encore au niveau scientifique.
D'ailleurs, cette plume, on l'a appelée, j'ai vu qu'on l'appelait parfois la Mona Lisa des fossiles. Et cette plume, Karine Payeur, elle est même mentionnée par Charles Darwin, il me semble, à partir de la 4e édition de son Origine des espèces.
Oui, en fait, c'est exactement ça. Et cette plume, c'est tellement spécial parce qu'avant ça, on n'a pas du tout de plume découverte. Et ça nous emmène après cette découverte de cette plume de commencer à regarder un peu partout si on trouvait des vêtements plumeux ou des plumes sur des autres spécimens qu'on n'a pas fait auparavant.
C'est-à-dire qu'on s'est mis à regarder un peu partout. Comment, Vincent Fernandez?
Tout d'abord, continuons les recherches, mais c'est on a utilisé tous les outils qui sont à notre disposition, et notamment dès qu'on a pu utiliser les rayons X, on a utilisé les rayons X. C'était beaucoup utilisé pour étudier les poissons d'ailleurs, qui étaient sur plaque, ça permettait d'avoir une idée de ce qu'il y avait dans la plaque. Et à partir des années 70, on a le scanner tomographique, donc comme on a dans les hôpitaux, qui pareil a très vite été utilisé par les paléontologues. D'ailleurs aussi à commencer par des poissons. Les années sont passées et il y a quelques années, il y a à peu près 10 ans, on a pu scanner un archéoptéryx au synchrotron à Grenoble.
Voilà ce qui va permettre de rentrer un peu plus dans le détail de sa morphologie, de la compréhension de son squelette. Et on va voir ça évidemment ensemble au cours de cette émission. Toujours sur l'histoire de cette découverte, Vincent Renoulot, vous avez évoqué le spécimen de Londres, découvert en 1861. Alors ce spécimen, il n'a pas de crâne. Par contre, en 1875, on découvre un spécimen encore plus complet avec le crâne qui, lui, finit au Muséum de Berlin.
Oui, exactement, c'est le Muséum de Berlin. Alors effectivement, c'est assez rigolo de se dire que c'est quand même une espèce emblématique allemande et dont l'holotype qui définit l'espèce aujourd'hui se trouve à Londres. Et les Allemands, très rapidement, ont trouvé un autre spécimen qui, en échange d'une vache de mémoire, a été racheté par le Muséum de Berlin et donc s'est retrouvé dans les collections du Muséum de Berlin. Il est exposé, c'est souvent de lui dont on parle quand on parle de la Mona Lisa des fossiles, parce que le fossile de Berlin, il est parfait, il est très esthétique, il est complet, il y a un crâne qui est complet, contrairement à celui de Londres, où il y a des fragments de crâne, il n'y a pas le crâne complet, mais il y a quand même des fragments de crâne pour celui de Londres de mémoire. Mais voilà, donc c'est à mon sens, à titre personnel, le plus beau, esthétiquement parlant, celui de Berlin, et effectivement, il a été découvert vraiment dans la foulée de celui de Londres, 2 ans à peine après la publication.
Karine Payeur, en effet, donc une espèce emblématique allemande, on peut faire un petit point sur les conditions de préservation exceptionnelles du site de Solnhofen. La région autour de Solnhofen en Allemagne est un endroit où l'on retrouve beaucoup de fossiles. Alors pourquoi sont-ils en si bonnes conditions?
Alors en effet, c'est un environnement type lagunaire, alors il avait plein de cuvettes où les spécimens pourraient se fossiliser. Et c'est justement pour le fait que dans ces lagons, l'eau était très très calme. Alors une fois une fossile ou un animal tombait au fond du lagon, il n'était pas perturbé. Aussi, on soupçonne que les eaux étaient parfois assez toxiques, au moins dans les zones assez bas. Alors, ça veut dire, ça, c'est aussi une chose qui est parfaite pour ne pas avoir trop de bactéries ou trop de prédateurs qui pénètrent dans ces fonds des lagos. Et en plus, pour finir, les sédiments sont tellement fins qu'ils arrivent à préserver le plus moindre détail de ce spécimen.
Et c'est ce qui explique, Vincent Fernandez, qu'on a des spécimens qui sont exceptionnellement bien conservés, au point où on a accès justement aux plumages qui sont, aux plumes qui sont imprimées dans la pierre.
Oui, exactement. Donc, on a beaucoup de on a ces spécimens d'archéoptérix, mais en gros, c'est le type de site qui nous donne un aperçu d'un endroit à un instant donné. Donc, ça nous permet d'avoir un aperçu très complet d'une faune globale, et ça, c'est très enrichissant pour la paléontologie.
On vient de parler d'un environnement lagunaire, Vincent Renolo. À quoi ressemblait l'Europe à la fin du Jurassique? Quelles étaient les terres, la terre où vivaient les archéoptérix?
Alors, il faut imaginer un archipel tropical. L'Europe se situait un petit peu plus au sud qu'aujourd'hui, et surtout la température globale sur le globe était bien plus importante, avec un niveau des mers qui était bien plus élevé, à peu près 120-150 mètres de plus qu'aujourd'hui. Qui fait que l'Europe, dans son immense majorité, c'était juste les sommets les plus élevés qui faisaient surface. Donc on avait un archipel tropical avec comme Karine l'expliquait, des barrières de corail, des lagons coralliens, des eaux peu profondes, translucides, dans lesquelles ces animaux évoluaient, alors soit sur les petits îlots, plus ou moins importants, soit directement dans les eaux du lagon. C'est pour ça qu'effectivement, dans ce genre de site, nous, on retrouve les spécimens fossilisés au fond de ces lagons. Donc on retrouve en priorité, évidemment, des poissons, des invertébrés marins, ce genre de choses, mais parfois un spécimen terrestre ou même de reptiles volants qui se serait accidentellement égaré dans l'eau, noyé, et qu'on aurait retrouvé au fond de l'eau.
Alors là, aujourd'hui, on n'a que 14 spécimens de cette espèce. Vincent Renolo, ça veut dire que Archaeopteryx n'a vécu qu'en Europe, que c'était une espèce endémique?
Alors Archaeopteryx, effectivement, pour le moment, on n'a retrouvé même qu'en Allemagne. Même plus restreint que l'Europe. On peut avoir des sites assez similaires en termes de fossilisation, notamment en France. On en a deux, dont un qu'on exploite toujours aujourd'hui avec Karine Payer, qui est dans le sud de la France. Donc même type de fossilisation à Coingers dans le Var, mais en Espagne également, ou à Sérin aussi, il y en avait en France, un autre en France. Mais des archéoptérix, on en a retrouvé vraiment que dans la région de Solnhofen, Eichstätt, cette bande de calcaire en Bavière extrêmement spécifique. Donc c'est vraiment des animaux qui, aujourd'hui, on les a retrouvés vraiment que là. Pour quelle raison? Est-ce qu'ils vivaient que là? Ou est-ce que c'est un biais d'échantillonnage aussi? C'est fréquent en paléontologie. Les carrières de Solnhofen et de la région sont exploitées de façon industrielle depuis plus d'un siècle et demi. Donc forcément, ils dégagent énormément de pierres. Donc forcément, ils trouvent aussi beaucoup de fossiles. Mais en tout cas, aujourd'hui, effectivement, les 14 spécimens... Alors, de mémoire, d'ailleurs, c'est 14 spécimens osseux, plus la plume. Je crois que ça fait 15 au total.
14 squelettes, une plume. Alors, on l'a déjà dit, Karine Payer, Archaeopteryx date d'environ 150 millions d'années, mais les dinosaures sont beaucoup plus anciens. Ils étaient déjà présents depuis pas loin de 100 millions d'années. Quel était l'état de la faune à ce moment-là?
Bon, ça dépend un petit peu, mais si on revient au Trias, quand on trouvait les premiers dinosaures, c'était plutôt aride et sec, et on trouvait encore une sorte de supercontinent qui se commençait à mettre ou isoler dans des petites sous-continents plutôt. Oui, et du coup, oui. Ça change aussi un petit peu où on se trouvait dans les hauteurs, et si c'est plus au nord, au sud ou vers l'équateur.
Vincent voilà. Fernandez.
Oui, c'est effectivement il y a les dinosaures, oui, effectivement, ils sont apparus il y a 230 millions d'années, dans ces eaux-là. Et là, on est au Jurassique et on a, les grands groupes de dinosaures qui sont bien établis, donc avec les sauropodes, c'est les géants, avec leur long cou et qui pouvaient avoir des tailles gigantesques. On a le groupe des théropodes aussi qui commence à bien se diversifier, donc avec les carnivores, qui a donné plus tard les T-Rex et tout ça. Et puis, et les ornithischiens de l'autre côté qui va lui, plus tard, donner les triceratops, les stégosaures et tout ça. Mais on commence déjà à avoir une belle diversité. On retrouve des dinosaures sur tous les continents et à toutes les latitudes, jusque dans les zones polaires.
Voilà, comme vous dites, hein, l'appellation dinosaure désigne un groupe extrêmement diversifié. Alors, quelle est la morphologie d'Archéoptérix? Pourquoi est-il un fossile clé pour comprendre l'origine des oiseaux? On vous fait les présentations.
Ça n'a pas l'air très effrayant.
France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
C'est juste comme une grosse dinde.
Une dinde, hein.
Oh non.
Les fans auront reconnu le clin d'œil en direct sur France Culture. On commence notre semaine spéciale dinosaure avec une espèce emblématique, l'Archéoptérix, dont le nom signifie « aile ancienne ». On en parle avec Vincent Fernandez, Karine Payère et Vincent Renolot. On vient de voir qu'il a été donc découvert dans les carrières de calcaire de Solnhofen, en Bavière, en 1860. Un petit animal doté de plumes. Vincent Renolot, à quoi ressemblait cet animal? Il ressemblait pas à une grosse dinde, celui-ci?
Non, il ressemblait pas à une grosse dinde. C'est, on le verrait aujourd'hui, on dirait, ça ressemble à un oiseau, un peu bizarre quand même. C'est alors pas grand, effectivement, la taille d'une pie, la taille d'une corneille, ça dépend des spécimens. Il y en a des plus ou moins gros. Il avait des dents quand même, donc il avait pas de bec, contrairement à ce qu'on entendait dans l'archive tout à l'heure. Mais il avait des plumes, effectivement, donc des plumes, et surtout une longue queue osseuse. C'est ça aussi qui est qui a frappé les scientifiques qui l'ont vu pour la première fois à la fin du 19e siècle, parce que il avait à la fois des caractères des oiseaux, donc évidemment les plumes, ça c'est le plus évident. Pour l'époque, c'était l'apanage des oiseaux, la plume. Aujourd'hui, on sait qu'il y avait des plumes de façon plus large au sein des dinosaures que simplement le groupe des oiseaux, mais à l'époque, c'était une grande découverte. Et effectivement, des caractères plus lézards, comme on l'entendait tout à l'heure dans l'archive de France Inter, où donc des dents, une queue osseuse et d'autres caractéristiques de genre. Donc on avait, c'est pour ça que les gens ont très rapidement parlé de chaînon manquant, même si aujourd'hui en paléontologie moderne on n'aime pas du tout ce terme, parce qu'il n'y a pas comme ça de lien direct entre un ancêtre et son descendant en cladistique moderne. Quand on fait de la paléontologie, voilà, on va trouver des degrés de proximité, mais on va pas parler d'un ancêtre direct d'une espèce donnée.
Oui, le terme chaînon manquant, c'est très trompeur, parce qu'il n'y a pas une espèce qui permet de faire le lien, c'est évidemment un continuum. Karine Payeur, quelle était, justement, pour rentrer un peu plus dans le détail de ces plumes historiques, quelles étaient leurs caractéristiques?
Alors, Archéoptérix, il avait déjà des plumes de vol assez développées, ça veut dire des plumes asymétriques. Ça veut dire qu'on a une rachis qui est plus grande que l'autre sur l'autre côté. Mais ce n'était pas encore ce qu'on voit chez les oiseaux aujourd'hui qui savent très très bien voler. On sait aussi qu'il avait des plumes un peu partout sur son corps. Ce qu'on n'a pas encore trouvé, c'est des plumes sur la tête et son cou, mais un peu partout ailleurs, même des plumes sur ses jambes. Voilà.
Oui, des plumes sur ses jambes qui ressemblent, enfin qui lui donnent des allures un peu de pantalon. On a aussi accès, en partie, Karine Payeur, aux couleurs de ce plumage.
Oui, exactement. Alors aujourd'hui, avec la microscopie électronique ou le spectroscopie à rayon X, on a aujourd'hui des méthodes qu'on peut regarder les plumes d'Archéoptérix. Et dans ces plumes, on a en fait trouvé la présence des mélanosomes. Ce sont des tout petites structures qui donnent des couleurs aux plumes. Et du coup, on a trouvé que les plumes qui existent sur Archéoptérix étaient probablement complètement noires. Alors, ça ne veut pas dire que tout l'animal était noir, mais au moins les plumes qu'on a, ils sont noirs. Alors, les autres, ils pouvaient être peut-être un peu blancs ou une autre couleur, mais ce qu'on a trouvé, c'est plutôt sombre comme couleur pour Archéoptérix.
Voilà, les mélanosomes, ces corpuscules porteurs de pigments, des plumes noires parce qu'elles contiennent donc des mélanosomes en forme de petites baguettes, des e-mélanosomes qui produisent donc cette couleur noire chez nos corneilles actuelles, par exemple. Ça veut dire, Vincent Renolot, que Archéoptérix n'avait rien d'une colombe.
Non, effectivement, a priori, c'était quelque chose, un animal effectivement plutôt sombre. Alors, comme le disait Karine, on a une idée. Il y a 20 ans, tout le monde vous aurait répondu que c'était impossible de connaître la couleur d'un dinosaure. C'est vrai que ces 20 dernières années, non seulement chez Archaeopteryx, mais chez d'autres dinosaures, notamment à plumes, mais pas que, on a réussi quand même à retrouver des patterns comme ça, à retrouver des mélanosomes de différentes formes, pas que la forme E dont vous venez de parler, mais différentes formes qui nous permettent de deviner au moins des motifs ou des tendances de couleurs sur certains de ces animaux. Donc ça, c'est une grande avancée pour la connaissance scientifique, parce que jusque-là, effectivement, les couleurs ne se fossilisant pas, ou de façon, en tout cas pas ces couleurs-là, c'était extrêmement difficile de connaître l'apparence un peu réaliste de ces animaux. Aujourd'hui, bon voilà, sur Archaeopteryx, on arrive à savoir que c'est un oiseau plutôt sombre.
Vincent Fernandez, justement, sur cette révolution technologique pour mieux comprendre ces fossiles.
Oui, du coup, c'est pour l'image de Jurassic Park où justement dans cette scène, ils viennent de tester ce qu'on appelle la tomographie sismique. Donc, on fait des ondes sismiques pour essayer de comprendre la structure interne. On n'en est pas à pouvoir avoir ce niveau d'image, mais une des fausses images qui est colportée par ce film, c'est que comme si les paléontologues avaient peur de la technologie, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. J'ai l'impression que dès qu'il y a une technologie à essayer, on l'essaye. Se dire qu'on pouvait voir, comme il a été dit avant, le fait d'imaginer pouvoir étudier des mélanosomes il y a 30 ans, c'était impossible. Et maintenant. Moi, ma spécialité, c'est donc la tomographie, donc de pouvoir scanner comme on scanne les gens à l'hôpital, mais avec un synchrotron, qui est un instrument gigantesque, qui fait 844 mètres de circonférence, et il produit un faisceau de rayons X qui est 10 000 milliards de fois plus important qu'à l'hôpital. Et donc, avec ce faisceau, on va pouvoir avoir une résolution bien plus intense. Donc, c'est pas avec cette technique qu'on va pouvoir regarder les mélanosomes, parce qu'ils sont vraiment, vraiment petits. Mais par contre, on va pouvoir regarder la microstructure osseuse. On va pouvoir regarder comment les muscles s'attachent dans les os. On va pouvoir regarder aussi l'intérieur des boîtes crâniennes et regarder les vaisseaux sanguins, les vaisseaux occupés par les nerfs. Donc ça, on va bien au-delà de juste une description de surface. Maintenant, on arrive vraiment à aller à l'intérieur des fossiles.
Sur cette microstructure osseuse, justement, Vincent Renolo, un des os clés, c'est ce... Vous avez évoqué la queue ossifiée, mais on voit aussi qu'il n'y a pas de curcula, l'os en Y, l'os du bonheur du poulet.
Oui, exactement. Ça, c'est peut-être l'os qui fait le lien le plus solide entre les dinosaures et les oiseaux. Donc aujourd'hui, tous les paléontologues vous diront que les oiseaux, évidemment, sont des dinosaures à part entière. Mais effectivement, il y a beaucoup d'autres dinosaures chez les théropodes, donc c'est plutôt bipèdes, carnivores, qui ont cette fameuse furcula, alors des fois en forme de Y, comme chez le poulet, qu'on mange le dimanche, ou sinon, effectivement, ça peut être en forme de boomerang, mais c'est effectivement la fusion de ces clavicules qui est typique de cette famille de dinosaures. Et c'est ce qui permettait, au niveau musculature aussi, d'avoir des attaches musculaires extrêmement solides pour plus tard permettre le vol battu.
Oui, cet os, c'est une des caractéristiques anatomiques les plus importantes d'Archaeopteryx, finalement, Vincent Fernandez.
Eh bien, oui, justement, c'est ce qu'on essaie de comprendre, c'est ce qu'on voit quand on regarde les articulations des membres avant, donc de ses ailes, de ses pattes avant, c'est un mix des deux. On a du mal à imaginer qu'il pouvait. On se dit qu'il ne pouvait pas battre des ailes comme un oiseau actuel. Et du coup. C'est une étude qui a été faite par Denis Wooten, qui a été menée par Denis Wooten, qui est un chercheur doctoral au synchrotron, où on s'est dit si l'articulation nous donne pas assez d'informations, on va regarder la microstructure osseuse, parce que finalement, quand on utilise nos muscles à répétition, on va laisser une empreinte jusque dans la microstructure de nos os, et du coup, Denis a comparé la microstructure osseuse d'oiseaux modernes, de reptiles, on sait qu'ils ne volent pas, d'archéoptérix, d'autres dinosaures. Et ce qu'on arrive à voir, c'est l'orientation de la vascularisation dans les os, l'organisation des cellules osseuses. On peut avoir plein d'informations très quantitatives qui indiquent que Archéoptérix faisait utiliser ses ailes régulièrement, assez pour laisser une empreinte dans ses ailes et certainement avoir un vol battu, pas autant que les oiseaux modernes, mais peut-être plus comme un faisan, quelque chose d'assez occasionnel.
On va revenir dans le détail sur ses capacités de vol, mais Karine Payeur, où classer Archaeopteryx? Parce qu'il a longtemps été considéré comme l'un des premiers oiseaux. Alors, s'agit-il d'un oiseau très primitif ou d'un reptile emplumé? C'est un gros débat.
Ça, c'est un grand débat et on est toujours dessus, même aujourd'hui. Et chaque fois qu'on découvre d'autres choses, évidemment, cette historique et ces débats vont se changer. On va rediscuter toutes les questions qu'on avait. Alors du coup, on ne peut plus dire que Archaeopteryx était le premier oiseau ou le premier membre du groupe oiseau, parce que depuis, on a quand même trouvé d'autres membres comme Anicornis ou Aurornis qui sont encore beaucoup plus vieux et qui avaient déjà des plumes, qui sont ou étaient même plus capables de voler avant Archaeopteryx. Aujourd'hui, on pense plutôt que Archaeopteryx est on est dans une branche qui est groupe frère de les oiseaux. Mais on peut aussi parfois discuter que les oiseaux, ils avaient peut-être pas une seule ancêtre, mais peut-être ils avaient des lignées diverses et variées qui ont donné naissance aux oiseaux. Alors du coup, ça dépend toujours qui on demande, mais je pense que le consensus, c'est plus que Archaeopteryx est maintenant dans une groupe frère de la groupe qui a donné naissance aux oiseaux.
Mais ça, de toute façon, Vincent Renolot, tous les oiseaux sont des dinosaures, de toute façon.
Ah oui, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Dans tous les oiseaux actuels, enfin, il n'y a pas de débat. On trouvera toujours quelqu'un pour dire le contraire. Mais honnêtement, c'est 99,9% des paléontologues aujourd'hui vous diront que les oiseaux sont des dinosaures à part entière. Ce sont les seuls dinosaures qui ont passé la fameuse extinction Crétacé-Tertiaire, Crétacé-Paléogène, il y a 66 millions d'années.
Alors, pour tout savoir de l'apparition des protoplumes, pardon, je vous renvoie vers notre épisode CQFD Évolution, mon truc en plume. Maintenant, sur cet Archaeopteryx, on vient de parler de la disposition des plumes. Alors, pouvait-il voler? De quel type de vol s'agissait-il? Comment trancher sur cette question? On y arrive. Pigeon de Sacha Lipsky en direct sur France Culture. Car nous parlons pas tout à fait de pigeon, mais d'un dinosaure à plumes avec un squelette de la taille d'un pigeon, l'archéoptérix, considéré à tort comme un oiseau primitif. On en parle avec nos trois invités du jour. Karine Payer, paléontologue attachée honoraire au Muséum National d'Histoire Naturelle, tout comme Vincent Renolo, et Vincent Fernandez, paléontologue au synchrotron de Grenoble. On vient de voir qu'il est vieux d'environ 150 millions d'années. Archéoptérix a été une découverte essentielle qui a permis d'envisager des dinosaures à plumes grâce à lui. On s'est mis à regarder sous une nouvelle loupe des dinosaures déjà bien connus à la recherche de plumes, mais était-il capable de voler ?
L'aptitude au vol est une exception chez les mammifères. L'aile des chauves-souris est un morceau de peau qui se rattache non seulement aux bras et aux doigts, mais aussi à tout le corps depuis le cou jusqu'à la queue. Cependant, les bras conservent encore leur apparence. Chez les oiseaux, c'est une transformation totale des membres antérieurs qui donne naissance aux ailes. Celles-ci sont revêtues d'un système de plumes différenciées, les principales étant appelées pennes ou rémiges, et les plus petites barbes. Tous les oiseaux ont des plumes, même ceux qui ne volent pas, et ils sont les seuls êtres vivants à en avoir. Comme les plus lourds que l'air sorti de la main de l'homme, les oiseaux ne volent si bien que parce qu'ils ont une très grande légèreté relative. Ils l'obtiennent par l'emploi de sacs aériens et d'un squelette dont les os longs sont creux. C'est donc dans la totalité de leur corps et non seulement par leurs ailes qu'ils sont adaptés au vol.
Un extrait de l'émission Science et Poésie diffusée sur la RDF en 1949. Karine Payer, les plumes et la capacité de s'élever dans les airs sont deux choses différentes. Comment trancher sur cette question de si Archéoptérix volait ou pas ?
Alors, on peut peut-être revenir sur ces plumes asymétriques qui nous donnent vraiment un indice que Archéoptérix pouvait probablement voler ou planer. Alors, cependant, si on regarde les oiseaux aujourd'hui, leurs plumes sont encore meilleurement faites. Alors, ça veut dire l'angle de la barbe dans cette plume, elle est encore plus courbée, alors une vol plus adaptée. Aussi, on pense plutôt que Archéoptérix avait une vol assez lente et limitée. Et qu'il passait beaucoup, beaucoup de temps à sauter, à courir, à chasser par terre. Voilà. Et du coup, il faut... Puis dans l'extrait qu'on a entendu avant, on a aussi parlé qu'il était souvent sur des branches et qu'il sautait d'une branche à l'autre et qu'il grimpait dans les arbres et tout ça. Mmh. On pourrait penser quand on regarde les griffes qu'il avait sur les ailes. Mais aujourd'hui, on a aussi regardé, surtout avec le dernier ou une des spécimens qu'on a trouvé, je pensais que c'était le spécimen de Thermopolis qui nous a montré que son orteil... postait pas encore l'orteil qui était complètement inversé. Ça veut dire de percher sur un arbre, c'était encore très très difficile pour lui. Alors du coup, il était vraiment par terre. Du coup,
oui, voilà, pas
c'est être très Vincent qui pourrait nous évoquer un petit peu sur le squelette et les adaptations du squelette par la tomographie qui peut nous dire à quel niveau ça a été pour le vol.
Mais en effet, comme vous dites, il était avec cet orteil renversé, mais pas complètement comme les oiseaux actuels. Il devait pas être très stable sur son perchoir. Karine Payer, on a aussi trouvé des coussinets carrément sous ses pattes.
Oui, exactement. Ça, c'était le dernier spécimen, je pense le spécimen de Chicago, qui a montré qu'il a des petites coussinets. Alors, ça va supporter encore la thèse ou l'hypothèse qu'on avait, qu'il était plus un animal qui était terrestre, alors par terre. Mais évidemment, il a utilisé ses plumes pour planer, sauter et voler de temps en temps, mais ce n'était pas un vol bien puissant.
Les kiwis, par exemple, le kiwi, les faisans ont eux aussi des coussinets. Vincent Renolo, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'était pas un avion de chasse.
Non, clairement pas. C'était effectivement, il lui manque les principales adaptations des oiseaux modernes, notamment un bréchet bien ossifié. Enfin, aujourd'hui, les bréchets sont plutôt en cartilage chez beaucoup d'oiseaux, mais un bréchet bien présent, ce qui permettait une attache musculaire de muscles extrêmement puissants au niveau de la poitrine pour permettre justement le vol battu. Et ça fait partie de ces adaptations que Archaeopteryx n'avait pas à l'époque. Donc, il n'avait pas un vol, effectivement, même s'il y avait effectivement ces plumes asymétriques. Comme le disait Vincent très bien tout à l'heure, et au niveau des os, on voit que il y avait quand même une activité musculaire qui faisait qu'il y avait une utilisation quand même assez intensive de son squelette, donc probablement pour une activité de vol, mais on est plus proche du faisan que du chopon, ça c'est assez évident aujourd'hui.
Alors Vincent Fernandez, vous évoquiez tout à l'heure la technologie de la microtomographie synchrotron, cette technique d'imagerie 3D non destructrice qui permet de reconstituer l'architecture des os, des membres de cet animal. Alors que nous a appris l'étude justement de son encéphale qui a été réalisée par cette technologie hein, sur qu'a-t-on découvert grâce à l'analyse de sa boîte crânienne ? Avec le premier spécimen d'ailleurs.
Oui, c'est parce que, c'est, comme disait Vincent, celui de Londres, il a pas une jolie tête, mais il a l'avantage d'avoir un moulage naturel de l'endocrâne, donc de l'intérieur du crâne. Donc ça nous donne comme si on avait une représentation 3D naturelle de l'empreinte de son cerveau. Enfin, pas tout à fait, mais pas très loin. Et du coup, pour les... pendant qu'on avait Denis qui travaillait sur l'étude du vol chez Archaeopteryx, on avait un autre étudiant, Vincent Béran, qui lui regardait l'évolution du cerveau chez les dinosaures et notamment chez les oiseaux et essayer de comprendre un peu à quel moment on passe de... Les dinosaures ont globalement un petit cerveau pour leur taille. Les reptiles, les crocodiles par exemple, ont un cerveau qui est très allongé, alors que les oiseaux vont avoir un cerveau qui est très gros par rapport à leur taille et très bulbeux, très globuleux, et qui permet ce qu'on appelle l'encéphalisation, du coup d'avoir un gros cerveau. Ça permet de gérer beaucoup d'informations et rapidement, et du coup c'est critique. Quand on veut pouvoir voler, parce que tout va très vite et il faut pouvoir réagir extrêmement vite. Et du coup, ce qu'ils ont regardé, des séries de développement de crocodiles, des séries de développement d'oiseaux, des dinosaures, plein d'autres oiseaux, des ptérosaures aussi. Et ce qu'on voit, c'est que on a chez ce groupe qu'on appelle les maniraptoranes, où il y a les vélociraptors et d'autres théropodes comme ça, on a des dinosaures qui vont être assez petits et qui commencent à avoir un cerveau qui se développe un peu plus. Et c'est aussi quelque chose qu'on observe chez les oiseaux. Et donc, c'est pas une grosse surprise quelque part, mais développer un gros cerveau, c'est quelque chose qui semble être apparu déjà chez plusieurs lignées, pas que chez les oiseaux, mais c'était quelque chose qui était... qui était là dans les gènes, dans cette famille, et qui a pu se faire un peu en parallèle dans plusieurs lignées. Et surtout que c'est quelque chose qui a précédé le vol.
Donc on voit qu'il avait acquis les adaptations neurologiques et sensorielles nécessaires au vol.
Pour Archaeopteryx, on est un peu à la transition. Il n'a pas un gros cerveau bien globuleux comme un oiseau, mais il est déjà. On est sur un cerveau qui est plutôt arrondi plutôt que fusiforme et qui est dans cette tendance commencer à développer un plus gros cerveau.
Karine Payer, justement, qu'est-ce qu'on peut dire également de ses yeux de cet animal ?
Alors, chez Archaeopteryx, on trouve aussi pas seulement l'ouverture où se trouvaient les yeux, mais là-dedans, on trouve aussi souvent des anneaux scléraux. Ce sont des petites ossicules tout à fait en cercle qui donnent une structure à l'œil. Et à part de ces anneaux scléraux, on peut juger sur la taille des yeux, mais aussi sur la sensibilité à la lumière. Du coup, cette structure à plein d'autres dinosaures et à plein d'autres oiseaux qu'on connaît aujourd'hui, on peut bien juger qu'ils vivaient plutôt pendant la journée. Alors, si on regarde des oiseaux qui sont plutôt actifs la nuit, ces anneaux sont beaucoup plus larges. Voilà.
D'accord, donc ce n'était pas un animal nocturne. Mais alors on va continuer de prendre notre envol, mais avec le reportage du jour. L'étude d'Archéoptérix s'interroge sur l'origine de la technique du vol chez les ancêtres des oiseaux. À ce jour, il existe deux hypothèses qu'un autre spécimen de dinosaure à plumes, originaire de Chine, vient éclairer. Et on fait sa découverte avec vous, Céline Lausanne. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Vous avez rencontré un paléontologue spécialiste des dinosaures à plumes pour vous pencher sur la description de fossiles intrigants.
Et oui, aux côtés d'Éric Buffetot, directeur de recherche honoraire au CNRS, qui nous expose ici le cas du Microraptor Guy, dont plusieurs fossiles ont été retrouvés en Mandchourie, au nord de la Chine. Alors le Microraptor Guy, c'est un petit dinosaure carnivore arboricole, vivant il y a environ 120 millions d'années, avec la particularité de posséder des grandes plumes à chaque membre, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un dinosaure à quatre ailes.
Wow.
Son étude rend l'idée d'un vol battu peu réaliste, mais apparaît compatible mécaniquement avec l'hypothèse du vol plané, effectué d'arbre en arbre à la manière d'un écureuil volant.
Ça, c'est ce que vous voyez ici, c'est la première plume d'Archéoptérix qui est trouvée en Bavière, dans le nord de la Bavière, en 1861. Et c'est une plume isolée, mais qui ressemble tout à fait à une plume d'oiseau actuel. Et un paléontologue allemand qui s'appelait Hermann von Meyer a vu ce fossile et a conclu logiquement que c'était une plume d'oiseau. Et puis, très peu de temps après, a été trouvé ce squelette que l'on voit ici, qui est donc maintenant à Londres.
Il est impressionnant.
Il est impressionnant. On voit très bien certaines parties. On voit la queue qui est très longue, avec de nombreuses vertèbres, qui a des plumes tout le long. On voit des grandes plumes sur les ailes, des deux côtés. Ça, c'est une patte de derrière. Là, il y a une patte de devant. La colonne vertébrale n'est pas très facile à voir. Et puis, il y a un petit morceau du crâne qui se promène, mais qui n'est pas en position d'origine. Mais néanmoins,
les plumes ont été très bien conservées.
Les plumes sont magnifiquement conservées.
Contrairement aux os.
Et voilà, et ça a pu montrer. Alors, les os ne sont pas si mal conservés quand on les regarde en détail, mais ils ne sont pas dans la position d'origine, ils sont plus difficiles à comprendre. Mais quand ce spécimen a été trouvé, il a provoqué beaucoup d'excitation parmi les paléontologues, parce que si on avait trouvé les os tout seul, on aurait dit c'est un petit reptile, un petit dinosaure. Mais comme il y avait les plumes, on s'est posé la question, mais qu'est-ce que c'est finalement? Est-ce que ce ne serait pas plutôt un oiseau? Et donc il y a eu deux hypothèses, soit c'est un oiseau bon, qui est un peu particulier, soit c'est plutôt quelque chose d'intermédiaire entre les dinosaures et les oiseaux. Et là, on est dans les années 1860, Darwin a publié son livre sur l'évolution des espèces en 1859, on est en plein dans les débats autour de l'évolution. Et là, quelques années après, il est arrivé des fossiles qui justement montraient des animaux qui étaient un peu intermédiaires entre deux groupes différents, et ça a été très immédiatement utilisé pour dire, ben, vous voyez, Darwin a sans doute raison, il y a des intermédiaires à l'état fossile entre des grands groupes d'animaux. Comme
le chaînon manquant.
Voilà, c'est un chaînon manquant. Archéoptérix, c'est le chaînon manquant entre les dinosaures et les oiseaux. Celui-ci a été trouvé dans les années 1800.
C'est un autre. Hein.
C'est un autre. Hein, trouvé il est à Berlin, maintenant c'est un des plus beaux de tous. Il est très très bien conservé, il est au musée d'histoire naturelle de Berlin. Et là, on voit des plumes, ici, là aussi, sur les ailes et la queue, comme le premier. Et puis, ici, c'est son crâne. Là, ça, c'est les pattes avant. Donc, vous avez le crâne, la colonne vertébrale et la queue. Ça, c'est les pattes de derrière, et avec des plumes un peu tout autour, et un crâne joliment conservé. Il montre aussi des détails du plumage, qu'on voit bien plutôt quand on éclaire avec des ultraviolets, des choses comme ça, et qui montre qu'il y a un plumage qui ressemble déjà pas mal à celui d'un oiseau actuel, et donc... les auteurs de l'étude pensent qu'il pouvait voler relativement bien. Et donc, c'est à l'heure actuelle, c'est le plus ancien oiseau qu'on connaisse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des oiseaux plus anciens, mais c'est le fossile dont on peut dire que c'est déjà un oiseau qui est le plus ancien connu pour le moment. Et puis finalement, les oiseaux modernes, de type moderne, finissent par apparaître au cours du Crétacé. Et tous ces oiseaux primitifs, avec des dents ou sans dents, mais primitifs, ont disparu en même temps que les dinosaures, à la fin du Crétacé, lors de la grande catastrophe de la fin du Crétacé, à la limite Crétacé-Tertiaire, de 66 millions d'années. Mais il a survécu un certain nombre d'espèces d'oiseaux de type moderne qui ensuite, au Tertiaire, se sont développées, ont évolué un peu dans tous les sens et ont donné les très nombreuses espèces d'oiseaux qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a au moins 10 000 espèces d'oiseaux.
Cependant, il y a eu des fossiles retrouvés en Mandchourie de ce spécimen donc à 4 ailes. Est-ce qu'on pourrait se pencher sur des représentations où on peut justement observer ces membres inférieurs et postérieurs dotés d'ailes?
Oui. Alors, le Micro-Raptor, c'est ce dinosaure à quatre ailes trouvé en Chine.
Alors, on zoome dedans.
Donc, il y a un très beau squelette avec une très, 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 très longue queue, composée de très nombreuses vertèbres. Le crâne est là, donc la colonne vertébrale se termine par la queue. Et puis, les membres, ils sont bien conservés, donc les pattes antérieures, avec des grandes griffes qu'on voit là.
Ce sont les côtes qu'on voit.
Oui. Les pattes de derrière, ici. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, accroché aux pattes de devant, il y a des très, très longues plumes, que vous voyez ici, en brun foncé, noir, qu'on voit un peu ici aussi. Et de même, aux pattes de derrière, il y a aussi ces très longues plumes qui sont marquées par ces traces allongées. Puis, il y en a aussi le long de la queue. Donc, c'est un animal qui a quatre ailes, en fait. Contrairement aux oiseaux actuels, qui en ont donc deux, bien sûr. Donc ça représente un type d'animal à plumes qui n'existe plus du tout aujourd'hui, des animaux avec des plumes, des grandes plumes aux pattes de derrière, ça n'existe plus. Bon, il y a des oiseaux qui ont des plumes un peu sur les pattes, et ça, on ne voit pas très bien comment cet animal aurait pu se déplacer, dans les airs du moins, sauf en planant. On ne voit pas très bien comment il aurait pu battre de quatre ailes à la fois, ça aurait été assez compliqué, disons, quoi. En revanche, il y a eu des modèles qui ont été faits où on peut constater qu'il était parfaitement capable de planer en utilisant ces quatre surfaces portantes, hein, qui, ou ailes, plus les plumes de la queue. Et donc, ça, c'est probablement un exemple d'un stade par lequel sont passés les ancêtres des oiseaux actuels, et d'Archéoptérix aussi. Et donc maintenant, notamment grâce aux fossiles chinois, on a pu établir toute une série de morphologies, ça ne veut pas dire que c'est les ancêtres les uns les autres, mais une série morphologique qui parle des oiseaux, des dinosaures à quatre ailes, avec une réduction progressive des ailes de derrière, les plumes deviennent de plus en plus courtes aux pattes de derrière, et finalement on arrive à la morphologie des oiseaux que l'on connaît, avec une paire d'ailes et des pattes de derrière qui servent à marcher mais pas à voler.
Merci Céline Lozen. Nos reportages pour sortir du studio et découvrir le travail de la recherche scientifique en cours de fabrication, c'est notre collection La Science au Labo, et c'est à podcaster sur l'application Radio France. Karine Payeur, une réaction à l'écoute de ce reportage?
Évidemment, un Micro-Raptor est un fossile qui est splendide, qui a fait le tour du monde. En fait, j'ai eu même l'occasion de le voir en vrai à Londres avec cette expo qui a lieu en 2002, il me semble. Ça s'appelait Dino Birds. Voilà, c'était super. Mais oui, il y a 120 millions d'années, c'était évoqué qu'il était une des premières membres qui volaient, mais on a évoqué déjà plus tôt en parlant qu'il y avait aujourd'hui maintenant beaucoup plus d'autres spécimens, des fossiles qui étaient trouvés, qui étaient adaptés à la vol ou qui pouvaient planer. C'était aussi dit qu'il semble que l'évolution de vol passait un peu par ce stade d'avoir quatre selles avant de perdre une ou deux pour avoir juste deux. Moi, je pense que c'était peut-être pas tout à fait comme ça et qu'on a vraiment des groupes différentes qui, peut-être comme Micro-Raptor, il a eu cette adaptation, mais dans des autres groupes, on n'est peut-être jamais passé par quatre selles. On va demander aux autres ce qu'ils pensent, voilà.
Vincent Renolo, votre écoute, vous aussi, de ce reportage.
Je rejoins ce que dit Karine au sujet de l'apparition du vol. Alors, et faut bien voir qu'en paléontologie, la fossilisation, c'est un phénomène extrêmement rare et qu'on n'a pas tous les spécimens qu'on aimerait avoir, hein, pour combler tous les trous et répondre à toutes les questions auxquelles on aimerait répondre. Mais Micro-Raptor, c'est vrai que c'est un peu une énigme, parce qu'on a cet animal avec quatre ailes. Comme le disait Eric Busto dans le reportage, on ne comprend pas bien comment il pouvait s'en servir pour voler, alors peut-être pour planer, mais ça impliquait qu'il devait d'abord grimper aux arbres pour ensuite se jeter du haut des arbres. Enfin, ça fait une bestiole un peu improbable, si vous passez l'expression. Mais c'est vrai que la fossilisation est splendide, donc il n'y a pas de débat sur la morphologie de l'animal. On le voit dans le fossile, hein. Les plumes sont évidentes. Mais c'est vrai que la nature essaye beaucoup de choses. Enfin, il y a eu très probablement, comme le disait Karine, effectivement, différentes branches. Il faut voir d'où vient la plume. Hein. C'est à l'origine, les plumes ne sont pas apparues comme ça. toute belle, longue, avec une belle structure, symétrique ou asymétrique. À l'origine, aujourd'hui, on pense que c'était plutôt des petits filaments qui ressemblaient un peu à des poils ou à du duvet très fin, avec petit à petit, ces excroissances, ces tégument se sont développés, se sont complexifiés pour finalement, au bout de plusieurs millions ou dizaines de millions d'années, donner quelque chose qui ressemble au plus moderne. Mais et c'est pareil au niveau de la morphologie globale des animaux. Des fois, il y en avait qui avaient les plumes qui poussaient un peu plus au cours de l'évolution sur les pattes arrière, et c'est ce qui a donné Microraptor. Après, voilà, chaque animal est adapté à son mode de vie. C'est pareil, c'est une notion aujourd'hui en paléontologie moderne qu'on essaie de faire disparaître quand on dit qu'un animal n'est pas adapté à son environnement. Si, forcément, il a vécu dans son environnement. C'est bien la preuve qu'il s'est reproduit. Une espèce, ça dure au moins des centaines de milliers, voire des millions d'années. Donc, on avait forcément des animaux qui étaient parfaitement adaptés à leur environnement. Après, comprendre 150 millions d'années plus tard, simplement avec une empreinte dans la roche, quels étaient leurs modes de vie exacts, on en discute depuis tout à l'heure. Hein. Pour Archaeopteryx, qui est un des dinosaures les plus étudiés au monde, c'est compliqué. Pour Microraptor, c'est un fossile qui est beaucoup plus récent et on n'a pas autant de fossiles qu'Archaeopteryx. Et peut-être qu'on a des technologies modernes, comme le synchrotron, par exemple, et tout, qui vont nous permettre, dans les années à venir, d'aller percer les mystères de ces animaux.
Vincent Fernandez, justement.
Moi, je dis oui tout de suite pour ce dernier arc de Microraptor. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand on a, c'est effectivement ce que disait Vincent, on a des informations qui sont assez clairsemées en fait avec la paléontologie. Des fois, comme à Sonlofen, on va avoir un aperçu très riche, mais très cantonné géographiquement et temporellement. Et c'est ce qu'on a découvert aussi en Chine. Il y a eu des sites à préservation exceptionnelle où on a découvert des plumes beaucoup plus récemment qu'en Allemagne, qui d'un coup ont complètement rebattu les cartes sur la diversité des plumes chez les dinosaures et que finalement il y a beaucoup de dinosaures qui avaient des plumes. Je sais plus exactement le chiffre, mais je pense qu'on n'est pas très loin d'une centaine d'espèces de dinosaures connues avec des plumes. Si c'est pas 100, c'est pas très très loin, on est peut-être à 80. C'est, l'ordre de grandeur est à peu près là.
Donc finalement, les plumes, c'était quelque chose de très très répandu au Jurassique, finalement.
Oui.
Et alors, on arrive à la fin de cette discussion, et tout de même, il faut terminer cette carte d'identité d'Archéoptérix. Vincent Renolo, on a dit voilà, qu'il vivait dans un environnement chaud et sec, comme la Floride, qu'il avait une bonne audition, une bonne vue, une bonne capacité de proprioception, qu'il peut manœuvrer dans l'espace, il n'est pas expert du vol, il peut voler pas longtemps, mais il mangeait quoi, cet animal ? Quelle était sa place dans la chaîne trophique?
Alors ça, c'est un grand avantage quand on retrouve les dents, c'est qu'avec la forme des dents, on a quand même une bonne idée des régimes alimentaires en général. Le Pteryx, c'est des petites dents en forme de crochet, un peu comme des très pointues, très fines, et ils se nourrissaient très probablement de petits invertébrés, des petits insectes, voire des petits lézards éventuellement, qui devaient lui passer sous la dent de temps en temps. Évidemment, mais on n'était pas en haut de la chaîne alimentaire, c'était pas un prédateur, c'était pas un chasseur au sens où il n'avait pas tué des animaux de sa taille pour se nourrir. Il mangeait probablement pas de viande au sens où on l'entend en général chez les dinosaures carnivores. Donc c'était plutôt un petit animal opportuniste qui allait se nourrir effectivement de petites proies qui lui passaient, qui pouvait poursuivre ou qu'il allait lui passer sous le nez au moment où il avait faim.
C'était un petit animal généraliste, finalement, Vincent Fernandez.
Oui, les animaux, ils sont effectivement, ils vont se spécialiser pour quelque chose, pour un régime assez spécifique. Après, s'il y a des opportunités comme il disait, pour un petit lézard, par exemple, ils vont pas se gêner. Oui.
C'est ça, parce qu'en fait, il a les mêmes dents en forme d'aiguille qu'un autre compagnon qui s'appelle le Compsognathus, c'est ça, et qui a un squelette d'ailleurs assez ressemblant avec ce spécimen.
C'est vrai que Compsognathus, il a à peu près la même taille, mais alors là, par exemple, on est sur quelque chose de, on n'a pas du tout de plumes, on avait un animal à peu près de la même taille, mais pas du tout, mais dans lequel, visiblement était plus avide de lézard, celui-là.
Eh bien, merci pour cette carte d'identité au grand complet. Merci à vous trois. Tout de suite, on change complètement de sujet. C'est la semaine du cerveau. Et c'est surtout la chronique d'Alexandra Delbo. C'est la chronique avec science. «
Les mots peuvent-ils éveiller des sensations dans le cerveau? Cela fait partie d'une nouvelle conception de la cognition. Pendant longtemps, on a pensé le corps comme étant assez séparé de l'esprit. Mais depuis les années 2000, une nouvelle théorie commence à s'imposer, celle de la cognition incarnée. C'est l'idée selon laquelle il y aurait une sorte d'inscription corporelle de l'esprit. C'est au départ une approche assez conceptuelle, mais elle commence à se vérifier concrètement dans le cerveau. Par exemple, on sait qu'imaginer donner un coup de pied ou attraper un objet active dans le cerveau les aires motrices, sans même bouger d'un millimètre. Et ce principe fonctionne aussi avec la lecture. Certains mots sollicitent des zones cérébrales liées à l'action qu'elles décrivent. Marcella Peyronet-Bertolotti est maîtresse de conférences à l'université Grenoble-Alpes et chercheuse au laboratoire de psychologie et neurocognition.
D'un point de vue neuronal, la cognition incarnée, il impliquerait des réseaux beaucoup plus distribués parce qu'en l'occurrence, c'est modal. Donc, par exemple, le fait de lire un mot, il ne viendrait pas uniquement impliquer des réseaux cérébraux de la lecture, mais aussi des réseaux cérébraux qui sont en lien avec les différentes modalités impliquées. En l'occurrence, par exemple, un verbe d'action de la main, il viendrait aussi impliquer toute la partie de l'action et des régions cérébrales en lien avec la mobilité effective. D'un point de vue des mécanismes. Un des mécanismes, c'est celui de la simulation mentale, de la simulation par exemple motrice lorsqu'on parle d'une action. Il y aurait une sorte de simulation interne de cette action. Ou quand je me remémore quelque chose, quand j'imagine en train ce soir d'aller à la piscine et de nager, je m'imagine, j'aurais une sorte de simulation de cette action de nager qui serait automatiquement mise en place.
Mais est-ce que cela fonctionne aussi avec les sensations? Est-ce que lire « j'ai chaud » ou « j'ai froid » déclenche les mêmes zones que lorsqu'on ressent vraiment de la chaleur ou du froid? C'est exactement ce qu'a voulu tester cette nouvelle étude parue dans iScience. Et la région cérébrale qui est impliquée dans la perception des sensations, c'est l'insula qui joue aussi un rôle dans la douleur. Elle est enfouie très profondément dans le cerveau et donc, pour des raisons éthiques évidentes, il serait impossible de mener une étude simplement pour répondre aux questions que l'on vient d'évoquer. Les scientifiques ont donc en réalité travailler avec des volontaires un petit peu particuliers, des patients souffrant d'épilepsie sévère et qui, pour être soignés, ont été implantés d'électrodes. Au CHU de Grenoble, les chercheurs et chercheuses ont donc profité de cette fenêtre clinique pour mener une expérience. Tout en suivant l'activité électrique de l'insula, grâce à cet EEG intracrânien, ils ont demandé aux patients de lire trois types de verbes. D'abord, des verbes abstraits, comme « je rêve »,« j'estime », »,« je réfléchis ». Ensuite, des verbes d'action, « je saute », je verse quelque chose, j'écris, et enfin des verbes associés à des sensations désagréables. Je grelotte, je me cogne, je brûle ou je me coupe. Et résultat, lire des mots liés à des sensations suffit à activer l'insula postérieure, la zone précisément impliquée dans leur perception réelle. Autrement dit, le cerveau réagit comme si le corps vivait vraiment la sensation.
Dans l'insula postérieure, et seulement dans cette région-là, qui est une région qu'on sait qui est impliquée dans le réseau de la douleur, de la sensation, etc., on observe une réponse très rapide et de façon assez distante, c'est-à-dire presque sélective, qu'est pour ce type de mots, c'est-à-dire une sorte de correspondance. C'est cette région, elle répond à la douleur, mais elle répond aussi aux mots qui font référence à la douleur et ne répond pas pour toutes les autres. Ce qui est important ici aussi, c'est que pour les autres régions, cette différence n'est pas observée, ce qui montre bien qu'il y a cette relation entre la douleur effective et le ressenti de la douleur à travers la lecture de mots. Ce qui a été aussi très surprenant pour nous, c'est qu'on a pu avoir des réponses aussi subjectives, c'est-à-dire que chaque patient donnait un avis sur chaque mot, de combien pour lui c'était un mot qui induisait la douleur ou la sensation. Et en fait, on a une corrélation entre l'activité de cette région et les réponses subjectives.
L'effet est donc subjectif pour chacun des 16 participants. L'insula réagit en fonction de ce que chaque personne associe à ces mots. Cela confirme à quel point notre expérience personnelle et nos souvenirs nourrissent cette cognition incarnée. Cette preuve d'une stimulation interne déclenchée simplement par la lecture est d'abord un apport théorique important, mais elle ouvre aussi des applications concrètes. Et c'est la suite de cette étude. Dans la réhabilitation, par exemple, réactiver certaines sensations grâce à la lecture après un AVC ou un traumatisme crânien, crânien, remobiliser des muscles avant même de pouvoir les bouger, aider les patients souffrant de douleurs chroniques à mieux moduler leurs ressentis, ou encore, et cette fois c'est l'inverse, l'imagerie motrice pourrait elle aussi renforcer les capacités de lecture. Ces allers-retours entre corps et esprit, par le biais du langage, pourraient donc devenir à l'avenir des outils thérapeutiques.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD. À la réalisation, c'était Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Anthony Thomasson, et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.